Le 7-9 de Matin Première.
François Heureux.
8h32, c'est l'heure du parti pris, échange d'arguments, de pistes de réflexion sur l'actualité du jour. Avec ce matin, Nadia Geertz, bonjour.
Bonjour.
Enseignante, militante, auteure et directrice de collection à la Renaissance du Livre. Et Alain Gerlache, bonjour.
Bonjour.
Journaliste et chroniqueur à la RTBF. Vous coproduisez également le podcast Plan B, un podcast bilingue sur la politique belge. On débute avec vous deux et cette colère, cet embrasement aux États-Unis, pillage, commissariat incendié, voitures qui foncent dans la foule, des centaines de milliers d'Américains se soulèvent contre le racisme, les inégalités sociales, les brutalités policières, après la mort d'un homme noir, George Floyd, étouffé, asphyxié lors de son interpellation par la police, les premiers éléments de l'enquête le prouvent. Face au chaos, le président Donald Trump a des accents guerriers.
I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel, and law enforcement officers to stop the rioting, looting, vandalism, assaults, and the wanton destruction of property.
Voilà, pour résumer, Donald Trump qui va envoyer des hommes de l'armée, lourdement armés, dit-il, pour rétablir l'ordre et arrêter tous ces pillages et ces atteintes à la propriété privée. Alain Gerlache, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? On avait l'impression qu'il suffisait d'une étincelle, qui a été quand même la mort filmée et tragique de cet homme noir, George Floyd, pour embraser toute une communauté. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Le racisme est encore profondément ancré dans la société américaine.
Oui, il est systémique. Ce n'est pas un accident de parcours. C'est un système. Le racisme est enchâssé dans la société américaine. Et depuis longtemps, ce qui se passe maintenant s'est passé à des degrés divers sous Obama, sous les deux Bush, sous Clinton et sous toute une série d'autres qui l'ont précédé. En fait, il y a une sorte de permanence du racisme dans cette société. Il y a eu l'esclavagisme. Lorsqu'on a mis fin au système esclavagiste, on a instauré la ségrégation. C'est une autre forme de racisme. Et lorsque la ségrégation a été supprimée dans les années 50-60, les inégalités sociales ont continué jusqu'à aujourd'hui. Un Afro-Américain, les Afro-Américains représentent 13% de la population américaine, mais 23% des décès dus au Covid-19. Et ils sont davantage touchés par le chômage consécutif à la crise sanitaire aujourd'hui. On voit bien que même si le système évolue, le racisme et en tout cas les effets du racisme, les inégalités continuent. Ce qui est différent aujourd'hui, et on va sans doute y revenir, c'est qu'on a un président qui n'essaye pas au moins verbalement d'arranger les choses, mais au contraire de les accentuer.
Ouais, Nadia Geertz, d'accord avec ça, le racisme il est systémique aux États-Unis et les déclarations de Trump ne font qu'amplifier la colère des Afro-Américains ?
Oui, tout à fait. Je pense effectivement qu'on a affaire à un racisme tout à fait structurel. Et je parlerai moi de racialisation des rapports sociaux en fait. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important et qui me tient à cœur parce que en fait ce qu'on ne voit pas souvent ici, me semble-t-il, en Europe, c'est que ce racisme, cette racialisation des rapports sociaux, elle est directement liée en fait à la politique multiculturaliste qui est menée par les États-Unis. Et cette politique multiculturaliste, en fait, on a tendance nous à n'en voir que le versant sympa, la reconnaissance de la diversité, etc. Mais on ne voit pas le corollaire. Et le corollaire, ce sont les droits différenciés, c'est la ghettoisation sociale, c'est l'assignation à résidence raciale et c'est le racisme. En fait, pour le dire de façon un peu lapidaire, on ne peut pas à la fois accorder de l'importance à la couleur de peau et ne pas lui en accorder. Et donc, je pense que les États-Unis sont pris dans ce piège-là, effectivement, et qu'après la ségrégation, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'il y a eu toute une série de mécanismes qui ont été mis en œuvre par les États-Unis pour compenser les inégalités en accordant des droits différenciés. Mais tant qu'on est dans un système de droits différenciés, on est dans le refus, je dirais, ou dans le contournement de l'évidence que nous sommes d'abord et avant tout des êtres humains, libres et égaux en dignité et en droit, et que donc la question de la couleur de peau, la question des origines, n'a pas ou ne devrait avoir en fait aucune importance.
Oui, donc aux États-Unis, c'est ce que vous voulez dire, Nadia Geertz, c'est qu'on est noir avant tout, avant d'être américain, avant d'être un homme, avant d'être une femme, c'est la couleur de peau qui définit les gens.
Alain Gerlache,
Il y a quand même eu Barack Obama qui est passé par là. Ça n'a servi à rien. Ça n'a pas réussi à décoincer un peu ces mentalités, à faire baisser le racisme aux États-Unis.
Ben c'était évidemment une avancée symbolique extrêmement forte. Et au-delà de la symbolique, il y a eu quand même un certain nombre de réformes fondamentales, notamment dans le domaine de la santé, qui allaient dans le sens de la lutte contre les inégalités. Il y a un effet malheureusement pervers, c'est que la présidence Obama a encouragé le renouveau des suprémacistes blancs.
Et peut-être la victoire de Donald Trump.
Et aussi évidemment. La victoire de Donald Trump. Il y a un certain nombre d'analystes américains qui considèrent, alors la formule doit être bien comprise, hein, que Donald Trump est le premier président blanc des États-Unis. Tous les autres étaient blancs parce que voilà, c'était la classe dirigeante. Mais lui, quelque part, le fait d'être blanc a joué quelque part aussi dans son élection et dans la manière dont il est actuellement soutenu par les suprémacistes. Et c'est pour ça qu'il continue à ne pas vouloir jouer ce rôle de modérateur, mais au contraire à faire en sorte de consolider cette base.
Il y a une stratégie politique dans
sa stratégie politique, c'est pas celle du président, c'est celle du candidat qui veut maintenir, encourager, consolider son socle électoral en vue de l'élection de novembre. Son socle électoral qui est, pour partie en tout cas, très sensible à cette thèse suprémaciste.
Ouais, un petit mot, Nadia Guerre, là-dessus, sur le rôle de Trump dans cette crise. C'est plus le président des États-Unis, c'est le président des suprémacistes blancs.
Moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'il a déjà joué un rôle de président depuis qu'il a été élu? Enfin, je ne sais pas, j'ai vraiment du mal à commenter la politique de Trump tant il est lamentable à tout point de vue, me semble-t-il. Mais effectivement, je pense que l'analyse d'Alain Gerlach est tout à fait exacte et c'est très intéressant. C'est vraiment cette résurgence des conflits raciaux. Je veux dire, on en est encore là aux États-Unis, c'est-à-dire puisqu'il y a eu un président noir, il en faut un blanc qui sera élu en tant que blanc et pas en tant que le plus compétent, le plus capable, etc. Alors maintenant, moi j'aurais quand même terminé peut-être sur une note un peu positive, c'est aussi que quand même il faut souligner qu'il y a toute une série de, toute une mobilisation très large maintenant pour dénoncer ce racisme. Donc je veux dire l'Amérique est raciste, oui, elle l'est structurellement et en même temps dans la société américaine il n'y a évidemment pas que des racistes. Et il y a aussi des policiers qui ne sont pas racistes et qui aujourd'hui se désolidarisent totalement de ce meurtre. Et il y a aussi des policiers blancs qui dénoncent tout à fait ce meurtre-là. Par contre, petit bémol de nouveau par rapport à mon point positif, ce qui est quand même inquiétant, c'est de voir aussi la résurgence d'actes antisémites maintenant, aujourd'hui, suite à ce meurtre. Donc c'est quand même assez interpellant de voir comment finalement un racisme peut répondre à un autre et donc comment d'une certaine manière, de nouveau structurellement, on n'en sort pas.
Et c'est vrai qu'on a vu ces images, Alain Gerlach, hein, de policiers qui mettent un genou en terre, signe de protestation contre...
Et que l'on voit maintenant partout dans le monde, y compris sur des stades
effectivement,
de foot.
Ouais.
Et ça, c'est quand même très important. Et ça montre bien que les États-Unis restent quand même, pour tout le monde entier, un point de référence, quoi qu'on en pense.
Effectivement. Deuxième sujet en débat, on revient chez nous avec ce retour en classe pour les maternelles avant les primaires, lundi prochain. Retour un peu chahuté, effréné, en tout cas la semaine passée, par les syndicats qui estimaient que ce retour était précipité.
Il faut se dire qu'en deux jours, on est passé d'une rentrée extrêmement stricte avec des mesures de sécurité très importantes, qui ont demandé énormément d'énergie. Deux jours plus tard, on nous dit qu'on peut rentrer dans n'importe quelle condition. Vous comprendrez qu'on avait des questions à poser.
Voilà, le président de la CGSP Enseignement, Joseph Tonon, qui était l'invité de Matin Première, qui changeait un peu de ton, hein, après un dépôt de préavis de grève la semaine passée, qui disait on n'appelle pas du tout les enseignants à faire grève. C'était plus un coup de pression sur la ministre pour qu'elle puisse se concerter avec nous et que les enseignants puissent se faire une rentrée en toute sécurité. Est-ce qu'elle est précipitée, cette rentrée, Nadia Guirte, à votre avis?
Ah oui, clairement. Oui. Alors là, franchement, moi, je ne comprends pas du tout quelle était l'urgence à faire rentrer les élèves à l'école début juin pour 3 semaines.
Ah, pour leur bien-être mental, disaient les pédiatres, notamment dans une lettre ouverte.
Dans 3 semaines, ils seront en vacances pendant 2 mois. Donc, je veux dire, si leur bien-être mental est en question et est menacé, ben, il le sera de toute façon dans 3 semaines et il l'aurait été de la même manière, je dirais, par 3 semaines supplémentaires sans classe. Moi, je crois vraiment qu'il aurait été préférable de consacrer les semaines l'avenir à une réflexion en profondeur sur la manière d'organiser la rentrée de septembre dans des conditions de sécurité optimales. Alors, je comprends évidemment que toutes les situations sont singulières, je comprends que certains parents et certains enfants puissent souhaiter un retour à l'école le plus rapide possible, mais par ailleurs, l'enseignement, c'est un métier de contact par définition, et de contact rapproché quand il s'agit de jeunes enfants. Alors, chaque enseignant, par rapport à ça, il a, outre son silo ou sa bulle hein, que constitue sa demi-classe, il a au moins une autre bulle, sa bulle personnelle au sein de laquelle il a peut-être des personnes à risque qu'il ne veut pas prendre le risque de contaminer. Alors, donc, je comprends dans ce cadre-là, je comprends tout à fait que la CGSP ait décidé de couvrir ceux de ses affiliés qui décideraient de se mettre en grève, parce que je pense qu'on ne peut pas imposer à des individus de reprendre le travail dans ces conditions-là, sans autre garantie. Mais au-delà de ça, en fait, ce qui me gêne surtout, c'est de ne pas comprendre en fait les véritables motifs de cette soudaine rentrée. En fait, je suis absolument intimement convaincue qu'il ne s'agit pas de l'intérêt de l'enfant, que très prosaïquement, la vraie raison, c'est que plus on déconfine, plus de parents reprendront le chemin du travail, et que donc ces parents, il faudra garder leurs enfants. Et
en fait, c'est l'économie qui a primé à la réouverture de ces écoles. Et vous êtes d'accord aussi avec la thèse qui dit que c'est la NVA qui a mis la pression pour qu'on rouvre les écoles le plus vite possible ?
Ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais de toute évidence, on va vers une école garderie, une école optionnelle qui est organisée à la va-vite avec les moyens du bord et sur le dos des enseignants. Et en fait, ce caractère optionnel du retour à l'école, c'est en fait en même temps ce qui rend la mesure acceptable et ce qui la décrédibilise complètement. Parce que de toute évidence, ce n'est pas d'instruction qu'il s'agit. S'il s'agissait d'instruction, on aurait imposé le retour à l'école.
D'accord avec ça, Alain Gerlache, ce retour, il est précipité, on l'a compris, c'est ce que dit Nadia Geertz, flou en tout cas, et cette mesure est incompréhensible parce que l'enseignement, en tout cas dans les faits aujourd'hui, n'est plus obligatoire.
Mais justement, ce caractère optionnel de l'enseignement, c'est quand même quelque chose de très très préoccupant. Alors je comprends et j'entends les arguments de Nadia Geertz sur la situation telle qu'elle se présente concrètement, mais on envoie quand même un très mauvais signal en considérant que l'enseignement est optionnel. On l'a envoyé à deux niveaux. D'abord en considérant qu'il ne fallait pas donner de nouvelles matières, comme si l'apprentissage, c'était pas vraiment très très important. Et on disait que c'était pour lutter contre les inégalités. Ensuite, maintenant, en considérant que finalement, on peut ou non envoyer ses enfants à l'école. Alors, je comprends très, très bien à la fois les contraintes pratiques, les angoisses des parents. Mais rappelons quand même que l'obligation scolaire, ce qu'on appelait l'instruction obligatoire, c'est une conquête sociale. C'est la foi dans l'école, dans l'apprentissage, comme étant un instrument de libération de ceux qui sont les plus faibles. Et là, on est dans une contradiction dont il va falloir sortir et restaurer le rôle fondamental de l'école dans une société qui se veut démocratique.
Ouais, donc soit on rouvrait les écoles, mais alors pour tout le monde, avec obligation d'y revenir, soit on ne les rouvrait pas, si je comprends bien, Alain Gerlache.
En tout cas, il faut qu'on rétablisse dès septembre l'idée même du fondement de l'école qui est aussi la lutte contre les inégalités.
On va terminer avec votre pensée du jour. Nadia Geertz, quelle a été votre première pensée en vous levant ce matin ?
Mais ma première pensée en me levant ce matin, elle est liée à ma dernière pensée en me couchant hier soir, qui était en fait ma lecture du moment. Et vous allez voir que ça a un lien quand même avec tout ce dont on a parlé ce matin, puisque ma lecture du moment, c'est le roman La Tâche de Philip Roth, qui est un peu, pour moi en tout cas, en termes d'invitation à la réflexion sur l'identité, l'équivalent des identités meurtrières d'Amin Malouf. Et donc c'est un roman qui dépeint l'horreur d'un monde où les individus sont assignés à résidence identitaire. Et ce monde, ce sont les États-Unis en 1998, avec un professeur d'université qui se voit viré de sa faculté pour être accusé de racisme parce qu'il a eu un propos malheureux qui n'avait rien de raciste. Et en fait, rien n'a changé depuis, hélas, si ce n'est peut-être que c'est pire aujourd'hui.
Voilà, La Tâche de Philip Roth, donc, comme pensée du jour. Et vous, Alain Gerlache, votre première pensée ce matin ?
J'ai pensé à une femme et à un homme. L'homme, c'est Guillaume Cizeron, il a 25 ans, c'est le quadruple champion du monde de danse sur glace. Et dans l'équipe ce week-end, il a fait son coming out qu'il avait déjà anticipé sur Instagram. Son coming out d'homosexuel dans un monde du sport où on sait que l'homosexualité reste encore difficile. Et il l'a fait parce que justement, il veut faire en sorte que pouvoir aider tous ceux qui, dans le sport et au-delà, ont des difficultés encore à s'assumer et à faire ce qu'il veut faire, c'est faire reculer l'homophobie. Et puis alors, Anne Soupa, c'est une théologienne française de 73 ans, elle, qui a annoncé lundi être candidate à l'archevêché de Lyon, le poste est vacant, contre le sexisme dans l'Église et pour que les femmes soient reconnues comme des êtres humains à part entière dans toutes les religions. Alors, toutes ces choses devraient aller de soi. Le coming out, quelque part, c'est d'une stupidité en 2020. Il serait normal que les femmes puissent aussi devenir, évidemment, évêques, prêtres, etc. Et donc, voilà deux personnes qui, pacifiquement, font en sorte que la société puisse quand même un peu avancer.
Il a été question beaucoup d'identité ce matin. Merci beaucoup Alain Gerlache, merci à vous Nadia Geertz d'avoir participé à ce parti pris. Dans quelques instants, on reparle du retour en maternelle avec cette fois la vie des parents. La FAPEO sera avec nous, à tout de suite.